Le jugement de la foudre, qui à la fin de Juliette tue la névrose, ou si l'on préfère Justine, achève la narration sadienne et la fige dans une intemporalité mythique. Cet éclair, c'est le paraphe de l'écriture, mettant un terme sans fin à la dualité du bien et du mal. C'est lui qui annonce la résolution de tout dire, que la perversion reconnaît finalement comme étant sa tâche. Écrire dans le seul but de détruire incessamment les règles, les croyances qui cachent l'écriture du désir. Écrire, non pour exprimer ou représenter, sinon ce serait la chaîne de la superstition, des causes, la littérature au sens névrotique du terme, c'est-à-dire qu'il prétend toujours se référer à un monde réel ou imaginaire extérieur à elle, à une vérité qui la doublerait, à un sens qui la précéderait. Mais écrire pour détruire à la fois la vertu et le vice, leur complicité, par un crime, à tel point cause et effet de lui-même qu'il ne puisse même plus être caractérisé, écrire est alors un crime pour la vertu comme pour le crime. Je voudrais trouver, dit Claire Will, un crime dont l'effet perpétuel agit, même quand je n'agirai plus, en sorte qu'il n'y eût pas un seul instant de ma vie où, même en dormant, je ne fusse cause d'un désordre quelconque, et que ce désordre puisse s'étendre au point qu'il entraîna une corruption si générale ou un dérangement si formel qu'au-delà même de ma vie, l'effet s'en prolonge à temps. Je parle de perversion au second degré, c'est-à-dire de la possibilité d'en jouer. Autrement dit, il n'y a rien de plus difficile que de connaître la perversion et de savoir en jouer, c'est-à-dire de ne pas être limité par elle. La plupart des exemples de perversion sont en un sens clinique, parce que tout simplement, il représente une limite répétitive, une pénible machinerie qu'on a dans les rituels pervers. Les pervers sont remarquables en ceci, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre en scène la répétition d'un certain nombre de formules rituelles, de façon quasiment hypnotique. Et ce qui est curieux, c'est qu'on a souvent l'impression très nette que dans leur agitation maniaque, un profond sommeil les tient. Alors je crois que là, pour atteindre ce point, il n'y a probablement que la musique pour le dépasser. Sans quoi, c'est cette sorte de sommeil aphasique du rituel pervers. Mais la musique qui passe à travers ça me paraît le seul traitement cathartique de la perversion. Il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, c'est un phénomène bien connu de toutes les mythologies, de toutes les sacralités. Bien sûr, c'est-à-dire, c'est la seule façon de jouer, d'élaborer la perversion, oui, sans aucun doute. L'élaborer jusqu'au bout. Guardate, me semble que le point où Sade intervient, et Mozart aussi, c'est quand même la représentation possible d'un inceste complètement symbolisé. C'est-à-dire un point impossible. Sade insiste beaucoup là-dessus, dans son idée sur les romans. Il a cette phrase extravagante, aucun romancier n'a jamais eu. Il dit que si le romancier ne devient pas l'amant de sa mère au berceau, ça n'est pas la peine qu'il écrive. Incestueux dès le berceau. Et sa fonction d'éducation fondamentale, c'est d'amener éventuellement comble de la libération. Pour ça, en tout cas, c'est très net partout. Une fille a se séparer complètement de sa mère. Comme si l'inceste masculin ne pouvait être complet que par cette interruption de l'autre côté, le rapport entre une fille et sa mère. C'est très étrange, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que l'inceste est non pas prohibé, mais impossible du côté de l'homme, parce que de l'autre côté, il y a quelque chose qui y fait obstacle dans les rapports entre une fille et sa mère. C'est une façon bizarre de présenter les choses. C'est pas sa propre mère pour un homme qui y fait obstacle, c'est de l'autre côté quelque chose qui est bloqué au niveau d'une fille et de sa mère. Alors c'est quand même assez subtil comme théorie sexuelle. C'est un report, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tout se passe comme si Sade allait... Sade et Mozart, je trouve aussi, fut enchanté, très explicite à ce sujet. Tout se passe comme s'il disait que pour qu'un homme sache de quoi il est vraiment question, dans le fond de sa jouissance qui est toujours incestueuse, il faut qu'il puisse être sûr... vérifier qu'il a compris de quoi il était question dans la continuité entre mère et fille et dans l'interruption possible qui peut s'y produire. Voilà. Thank you.
Thank you. L'inceste est-il plus dangereux ? Non, sans doute. Il étend les liens des familles et rend par conséquent plus actif l'amour des citoyens pour la patrie. Il nous est dicté par les premières lois de la nature, nous l'éprouvons, et la jouissance des objets qui nous appartiennent nous sembla toujours plus délicieuse. Les premières institutions favorisent l'inceste. On le trouve dans l'origine des sociétés. Il est consacré dans toutes les religions, toutes les lois l'ont favorisé. Si nous parcourons l'univers, nous trouverons l'inceste établi partout. Les nègres de la côte du Poivre et de Rio Gabon prostituent leurs femmes à leurs propres enfants. L'aîné des fils au royaume de Juda doit épouser la femme de son père. Les peuples du Chili couchent indifféremment avec leurs sœurs, leurs filles et épousent souvent à la fois la mère et la fille. J'ose assurer en un mot que l'inceste devrait être la loi de tout gouvernement dont la fraternité et la base. Comment des hommes raisonnables purent-ils porter l'absurdité au point de croire que la jouissance de sa mère, de sa sœur ou de sa fille pourrait jamais devenir criminelle ? N'est-ce pas, je vous le demande, un abominable préjugé que celui qui paraît faire un crime à un homme d'estimer plus pour sa jouissance l'objet dont le sentiment de la nature le rapproche davantage ? Il vaudrait autant dire qu'il nous est défendu d'aimer trop les individus que la nature nous enjoint d'aimer le mieux, et que plus elle nous donne de penchant pour un objet, plus elle nous ordonne, en même temps, de nous en éloigner ? Ces contrariétés sont absurdes. Il n'y a que des peuples abrutis par la superstition qui puissent les croire ou les adopter. La communauté des femmes que j'établis entraînant nécessairement l'inceste, il reste peu de choses à dire sur un prétendu délit dont la nullité est trop démontrée pour s'y appesantir davantage. Et nous allons passer au viol, qui semble être au premier coup d'œil de tous les écarts du libertinage celui dont la lésion est le mieux établie, en raison de l'outrage qu'il paraît faire. Il est pourtant certain que le viol, action si rare et si difficile à prouver, fait moins de tort au prochain que le vol, puisque celui-ci envahit la propriété que l'autre se contente de détériorer. Qu'aurez-vous d'ailleurs objecté au violateur s'il vous répond qu'en fait le mal qu'il a commis est bien médiocre, puisqu'il n'a fait que placer un peu plus tôt l'objet dont il a abusé au même état où l'aurait bientôt mis l'hymen ou l'amour ? Mais la sodomie, mais ce prétendu crime qui attira le feu du ciel sur les villes qui étaient à donner, n'est-il point un égarement monstrueux dont le châtiment ne saurait être assez fort ? Il est sans doute bien douloureux, etc. Bon, il est bien évident que tout ça est à prendre à la lettre dans l'humour qui dicte toutes ces considérations. Les nègres de la côte du Poivre et du Rio Gabon et le royaume de Juda et les peuples du Chili, tout ça est admirable, parce que en réalité ce que cherche Sade dans des passages de cet ordre, c'est toujours la même chose, c'est de démontrer les contradictions des lois, des gouvernements et le discours officiel. Et c'est là qu'il se contente d'insister tout le temps. Et c'est son projet.
Par ailleurs, si on regarde ce qu'il dit de la mort, si on passe directement du berceau au cercueil... Ce genre de formulation. N'eusse pas la moitié de ta vie au moyen de rendre l'autre malheureuse. Et après quelques années de végétation sous cette forme assez bizarre, quoi qu'en puisse penser ton orgueil, endors-toi dans le sein de ta mère pour te réveiller sous une autre conformation, et cela par de nouvelles lois que tu n'entends pas mieux que les premières. C'est la décomposition, recomposition, ça, évidemment, l'arrière-plan de ces démonstrations, il y a toujours la théorie matérialiste, atomiste, etc. Bon, c'est le matérialisme classique qui pousse à un point complètement inouï, puisque en général, la philosophie ou la pensée veut bien se représenter le monde comme tissé d'atomes, et même confier ça à la science, mais quant à se concevoir soi-même comme tissé de petites particules en mouvement, c'est autre chose, c'est un autre travail. C'est-à-dire que ça insiste beaucoup là-dessus, à savoir que les énigmes du corps sont, pour quelqu'un qui médite, des énigmes beaucoup plus compliquées encore à comprendre que celles de la pensée. Et je ne sais pas, par exemple, j'imagine Sade lisant L'homme neuronal qui vient de paraître et s'intéressant à l'exploration des synapses du cerveau. On sait, par exemple, que l'exploration du cerveau a été extrêmement difficile parce qu'il y a un tabou très fort là-dessus. C'est une matière à laquelle on n'ose pas trop toucher. La littérature, en gros, ça supplée à cette timidité de la science.
D'arrêt à cette possibilité de jeu ou d'élaboration, on le sait trop peu. Il me semble quand même que ça se situe au moment de la terreur française. La terreur est vertueuse. C'est Rousseau à la main qu'on commence à égaliser, autrement dit, raccourcir les corps. La Révolution, à cette époque, a deux obsessions. C'est l'égalité devant la mort, une parfaite égalité devant la mort, que la guillotine représente admirablement, comme on vient de l'abolir juste il y a très peu de temps, abolition qui aurait ravi Sade. La lecture de Sade commence avec cette abolition de la peine de mort et de son symbole égalitaire par la coupure dans la nuque. Sade est plein de réflexions, d'horreur par rapport à ce qui est en train de se passer sous ses fenêtres. Il dit que le spectacle des exécutions qui se déroule sous ses yeux l'a rendu quasiment malade. Alors qu'il est en train d'écrire tout ce que nous savons, le spectacle des gens qui sont en train de le réaliser en proclamant autre chose, c'est-à-dire le bien, la vertu, le révulse. C'est pour ça qu'il est absolument au cœur de notre histoire. Il écrit des monstruosités, il est dans la vie, comme chacun sait, la délicatesse même et la générosité même, puisqu'il va même jusqu'à sauver de la guillotine, ses persécuteurs, c'est-à-dire la famille Montreuil, présidente comprise. Mais enfin, ce qu'on oublie trop, ce qui n'est pas assez connu, c'est qu'il a été quand même condamné à mort, Sade, par Fouquier-Tinville et le tribunal révolutionnaire, précisément pour modérantisme, pour girondinisme, pour attitude ambiguë. Il était trop modéré. musical le plus absolu qu'ait connu la culture française, a donc été condamné à mort. Et on doit simplement un déplacement de Cachot le fait qu'il n'ait pas été exécuté. On l'a cherché un matin de janvier 1794. On l'a appelé son nom et on l'avait transféré la veille ailleurs. Quelque temps après, c'était le renversement de la terreur. Ben, moi, je propose qu'on fasse cette hypothèse de film, c'est-à-dire que Mozart est à Paris, il rencontre Sade, il discute, et au fond, il y a un rapport sur Mozart, et ils sont tous les deux condamnés à mort, exécutés, pourquoi pas. C'est ce qui aurait dû se produire. Cette image de... pas si fantaisiste qu'elle en a l'air, même si elle doit un peu choquer, mais enfin, peignons-la, de Sade et Mozart guillotinés ensemble, encore une fois, ça aurait été très vraisemblable. Ça nous met devant une scène, je crois, en effet, fondamentale, parce que, imaginons ce couperet d'acier tranchant ces deux têtes-là, et pourquoi ne pas imaginer que ça s'est passé d'ailleurs, et que les textes de Sade ou la musique de Mozart nous parviennent de l'autre côté, nous parviennent depuis un autre côté des choses avec lequel nous ne sommes plus à l'aise. La preuve, c'est que Sand, c'est quand même pas encore l'auteur qu'on va citer à la tribune de l'Assemblée nationale. Ce sera Saint-John Perse. Ça n'a rien à voir. Et quant à Mozart, eh bien, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on écoute avec, évidemment, ravissement, mais qui nous paraît mystérieusement à l'aise avec des choses qui nous paraissent à nous très compliquées. À commencer par les rapports entre les sexes, c'est-à-dire le fond des choses. Donc, imaginons ce couteau qui tombe sur ces deux têtes.